Elles ont le parfum du mystère, la séduction de l'extraordinaire, le charme de l'impossible. Pénétrez avec moi dans l'univers des incroyables histoires. Cette première incroyable histoire est due au plaisir que nous ressentons à faire une surprise aux personnes que nous aimons. C'est le début du mois de février, c'est le plein été et le temps est radieux. Il faut dire que nous sommes en Australie, à Sydney. Mais malgré la météo, Joshua Spring, 25 ans, est morose. Voilà 6 mois qu'il a accepté ce poste dans une entreprise australienne et qu'il a tout laissé derrière lui dans son Angleterre natale. Sa famille, ses amis et surtout sa petite amie Marjorie. Lorsqu'il est parti, c'était une liaison sans plus, mais avec la séparation, il a découvert la réalité de ses sentiments. Il n'y a pas de doute, il l'aime vraiment et il semble bien que ce soit réciproque. Ils échangent une correspondance de plus en plus passionnée sur Internet. Internet. Joshua vient justement de s'y connecter. Il va voir s'il y a un message de Marjorie et lui envoyer le sien. Mais en attendant, il navigue un peu dans les divers sites et il ne sait pas trop pourquoi il ouvre celui d'une agence de voyage. C'est alors qu'il a un choc. Une annonce s'étale en gros caractères. Australie-Angleterre, aller et retour à $500 pour la Saint-Valentin. Cliquez vite. Joshua Spring s'empresse de le faire. À ce prix-là, bien sûr, les billets ne sont pas modifiables ni remboursables. Le départ s'effectue le 13 février. Ce qui, compte tenu de la durée du voyage, permet d'arriver juste le jour de la Saint-Valentin et le retour a lieu une semaine après. Joshua n'hésite pas, il achète son billet et ce n'est pas la seule chose qu'il va acheter. Il va faire aussi l'acquisition d'une bague de fiançailles, car il va profiter de cette surprise pour faire sa demande. Il imagine déjà l'air émerveillé de Marjorie. Malheureusement pour lui, tout ne va pas se passer comme il imagine. On pourrait appeler ce qui va suivre les jeux de l'amour et du hasard, une sorte de marivaudage au XXIe siècle. Il fait particulièrement mauvais à Londres en ce début du mois de février, il neige sans discontinuer, et Marjorie Dolby, 20 ans, étudiante en histoire, grelotte en rentrant de la faculté. Elle se rend au petit pavillon de ses parents dans la banlieue de Londres, car elle habite chez ses parents. Mais là, elle a une surprise. Son père et sa mère l'attendent avec un grand sourire et ils lui remettent une enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour toi, ouvre ! Marjorie Dolby ouvre et elle pousse un cri de joie. Il s'agit d'un billet pour l'Australie. Comme cela, tu pourras être avec ton Joshua pour la Saint-Valentin. Hein ? Tu nous parles tellement de lui. Mais c'est une folie, vous êtes ruiné. Non ! C'était une promotion sur Internet. Ne t'inquiète pas. Vous croyez qu'il faut que je prévienne Joshua ? Oh non, 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 tu fais comme tu veux, mais ce serait tellement mieux de lui faire la surprise. Tu imagines sa joie en te voyant débarquer. Le point médian des 17 600 km séparant Londres et Sydney se situe quelque part dans l'océan Indien, à l'ouest de l'Inde. Et c'est là que Joshua et Marjorie se croisent, le 13 février suivant, chacun dans leur avion, savourant par avance la réaction de l'autre lorsqu'ils se retrouveront. Joshua arrive devant le pavillon des Dolby le lendemain. Il sait que Marjorie n'a pas cours ce jour-là et il est sûr de la trouver chez ses parents. À la main, il a un bouquet de fleurs et dans sa poche, la bague de fiançailles. Il sonne, ring ! Mais ce n'est pas elle qui vient ouvrir, c'est sa mère. En le voyant, elle a un mouvement de recul et elle devient blanche comme un linge. Du coup, le jeune homme devient blême à son tour. Qu'est-ce qui se passe ? Marjorie n'est pas là ? Sa mère est incapable de répondre. Elle est malade ? Elle est... Non, non. Elle est en Australie pour la Saint-Valentin. C'était une surprise. Au même moment, à l'autre bout du monde. Les choses se passent plus difficilement pour Marjorie. À la différence d'elle-même, Joshua vit seul. Il habite un studio à la périphérie de la ville et lorsqu'elle s'y présente en fin de journée, elle ne trouve personne, bien sûr. Elle a beau carillonner, on ne répond pas. Or, à cette heure-là, Joshua a fini son travail et il devrait être chez lui. Au bout d'un moment, Marjorie Dolby se résout à s'en aller. Elle fait des 100 pas dans le quartier. Puis elle revient sonner à la porte. Mais les heures passent et le studio reste vide. À 1h du matin, elle n'insiste plus. Elle cherche en vain un hôtel et finit par passer la nuit sur un banc dans un jardin public. La seule consolation dans son malheur, c'est qu'il fait particulièrement doux. Mais pour le reste, elle est assaillie de pensées affreuses. Pourquoi Joshua n'est-il pas rentré chez lui cette nuit ? Elle n'ose imaginer la réponse, car pour passer la nuit de la Saint-Valentin ailleurs que chez soi, il faut avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, quelqu'un dont on est amoureux. À moins que ce ne soit tout différent, à moins qu'il soit arrivé quelque chose à Joshua, qu'il soit à l'hôpital, malade, blessé, ou même mort. Ce n'est qu'en début de matinée, lorsqu'elle se présente dans la société qui l'emploie, qu'elle apprend la vérité. Joshua Springs est en Angleterre pour une semaine. Il a pris ce congé exceptionnel pour la Saint-Valentin. Furieuse contre ce coup du sort, mais quand même soulagée, Marjorie essaie de voir s'il n'y aurait pas moyen de modifier la date de son retour. C'est malheureusement impossible, et elle doit passer un séjour morose d'une semaine à l'hôtel. De son côté, Joshua tente la même démarche pour rentrer chez lui, mais il se heurte à la même impossibilité, et il doit passer une semaine tout aussi morose chez les Dolby, qui lui ont offert l'hospitalité. Enfin, le jour étant venu, les deux jeunes gens se croisent à nouveau, chacun dans leur avion, quelque part dans l'océan Indien, à l'ouest de l'Inde. Ah, ils s'étaient pourtant suffisamment prouvé leurs sentiments. Alors ils se sont mariés sans plus attendre à Londres à la fin de la même année. Cette fois, il n'était plus question de surprise, et ils étaient bien là tous les deux pour dire le oui fatidique.
Pierre Bellemare sur RTL.
Cette deuxième histoire, incroyable bien sûr, fait la démonstration de la force de conviction que peut représenter une voix humaine au téléphone. Allô ? Je vous appelle parce que je viens de tuer ma femme. Vous dites ? J'ai tué ma femme. Cela ne doit pas vous surprendre. C'est bien pour cela que vous êtes là, non ? Pour entendre ce genre d'histoire. Alors voilà, je viens de tuer ma femme. Et j'ai du remords. Au bout du fil, Greg Simmons essuie d'un revers de la main les gouttes de sueur qui viennent d'apparaître sur son front. Il aurait dû s'y attendre lorsqu'il a eu cette idée et qu'il l'a mise en pratique. Une idée à vrai dire unique au monde. Il a ouvert une ligne téléphonique au service du public SOS Remords. Il s'est installé à New York et il a fait paraître des petites annonces dans les journaux. Le principe copié sur SOS Détresse était simple. Quiconque avait quelque chose à se reprocher et voulait s'en confesser n'avait qu'à appeler à ce numéro et à parler. Il faut dire que Greg Simmons est un ancien pasteur et que c'était une manière de prolonger la vocation. Tout s'est très bien passé. Depuis 3 mois que la ligne fonctionne, il a eu environ 1 000 000 d'appels. On lui a confié des choses plus ou moins graves, y compris des meurtres. Mais ancien, pas comme à présent, un meurtre qui venait juste d'être commis. Greg Simmons retrouve ses esprits, après tout. Il fallait bien que cela arrive un jour. Il doit faire face, il est là pour cela. Il demande. Comment est-ce arrivé ? Dans la salle de bain. Elle était dans la baignoire et je lui ai plongé la tête sous l'eau. La voix de l'homme se fait angoisser, on le sent, proche de la panique. Il est près de midi et le petit va rentrer de l'école. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Greg Simmons ne répond pas, il est pris de court. Pour la première fois, il se sent dépassé par les événements. Au bout du fil, la voix se fait implorante. Oh monsieur, je vous en supplie, venez parler à mon fils, moi je ne saurais pas quoi dire, mais vous, vous saurez trouver les mots. Après, j'irai trouver la police, je vous jure. Aidez-moi, monsieur. Je m'appelle Phil Bernardo. J'habite 145 42e rue, appartement 2008. Jamais, bien entendu, Greg Simmons ne s'est rendu chez un de ses correspondants. D'ailleurs, aucun d'eux ne lui a donné son nom ni son adresse. Mais il est effectivement près de midi, ce 12 avril 1980. C'est le moment de sa pause quotidienne. Il descend dans un fast-food au bas de son immeuble pour grignoter quelque chose, après quoi il fait un petit tour dans le quartier avant de remonter. L'adresse que lui a donnée l'homme est tout près, alors pourquoi ne pas faire une exception ? Le sort de cet enfant le préoccupe. Il sait qu'il ne devrait pas, mais c'est plus fort que lui. Il s'entend répondre « J'arrive ». Et quelques instants plus tard, il est déjà dans l'ascenseur. Ah, c'est vrai qu'il n'aurait pas dû, mais il faut dire qu'il ne pouvait pas imaginer ce qui va suivre. On ne peut pas imaginer l'inimaginable. Il est aux environs de midi et quart quand Greg Simmons sonne à la porte de son correspondant. Ce dernier vient lui ouvrir. Il doit avoir une trentaine d'années, il n'est ni grand ni petit, il est habillé d'un jean, d'une chemise à fleurs. Il a les cheveux très courts, presque rasés. Greg Simmons ne sait pas pourquoi, mais sa physionomie le met mal à l'aise. En attendant, il pose la seule question qui l'intéresse. « Votre fils est là ?»« Non, entrez. » L'ancien pasteur pénètre dans la pièce grande et meublée avec un certain goût. « Il va arriver quand ?»«
Jamais. » »«
Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Je n'ai pas de fils. » »« C'était un truc pour vous faire venir. » Greg Simon comprend à présent pourquoi la physionomie de ce fil Bernardo l'avait mis mal à l'aise. Il y a dans son regard fixe, dans son drôle de sourire, quelque chose qui ne trompe pas. C'est un fou. L'homme est fou. Il aurait dû s'en douter. Il fait demi-tour vers la porte. Alors dans ce cas... Mais la voix de l'homme l'arrête. Une voix impérative, sans réplique. Ne bougez pas. Phil Bernardo tient en main un revolver, un gros revolver, comme on en voit dans les films policiers. Mais que voulez-vous de moi? Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux vous montrer ma femme. Mais c'est horrible, je ne veux pas la voir. Vous devez tout de suite appeler la police. Il n'est pas question d'appeler la police. Pour cela aussi, vous avez menti. Fallait bien. Et pour ma femme aussi, je vous ai menti. Elle n'est pas morte. Enfin, pas encore.
Puisque c'est vous qui allez la tuer.
Phil Bernardo va ouvrir une porte. Pour l'ancien pasteur, la situation est claire. Il doit fuir en prenant tous les risques. Si l'autre détourne un instant son arme, il va bondir vers la porte et s'enfuir. C'est extrêmement dangereux, mais tout vaut mieux que ne rien faire. Malheureusement, Phil Bernardo ne le quitte pas du regard et maintient le canon du revolver braqué vers lui. Il revient un instant plus tard, poussant devant lui une femme blonde, à peu près du même âge que lui. Elle a les mains attachées dans le dos et les pieds entravés, ce qui l'oblige à avancer en sautillant. Il la fait asseoir sur une chaise. « Je vous présente Nancy, la putain. Il paraît que vous êtes un ancien curé. Alors, vous allez la confesser. Elle va vous avouer toutes les horreurs qu'elle a faites. Et après, vous allez lui donner ce qu'elle mérite, une balle dans la tête. » Greg Simmons essaie de conserver son sang-froid. Il s'efforce de parler avec calme et persuasion. C'était son rôle à SOS Remords. Et il s'en est jusqu'à présent très bien tiré. Avec ses propos mesurés, sa voix apaisante, il a réussi à dénouer des situations quelquefois dramatiques. Il doit essayer encore cette fois-ci. Allons, ça va marcher. Il faut que ça marche. Écoutez, Bernardo, je fais appel à votre bon sens. Vous n'avez rien commis de répréhensible jusqu'à présent. Vous allez détacher votre femme, la laisser s'en aller où elle voudra, chez sa mère par exemple, et elle reviendra quand vous aurez retrouvé vos esprits. Vous voulez bien? Si vous agissez ainsi, nous aurons remporté une grande victoire tous les trois. Mais le résultat n'est pas du tout celui qu'il escomptait. Phil Bernardo se met à ricaner, s'approche tout près de lui et lui enfonce le canon de son arme sur la joue. On n'est pas là pour écouter vos sermons, curé, mais sa confession. Allez, interrogez-la. Demandez-lui combien d'amants elle a en ce moment. Greg Simmons veut garder le silence, mais la pression du canon se fait plus forte. Alors il est bien obligé de s'exécuter. Combien d'amants avez-vous en ce moment? La voix de la jeune femme est totalement terrorisée. Mais aucun, je vous jure. Il est devenu fou. Cela fait une demi-journée qu'il me retient prisonnière. L'animateur de SOS Remords se tourne vers Phil Bernardo. Vous voyez, elle dit qu'elle n'a pas d'amant. Je ne peux pas la condamner si elle n'avoue pas. C'est parce que vous n'avez pas posé la bonne question. Demandez donc à Nancy pourquoi elle a dansé avec Tommy Carley au bal des infirmières il y a un mois. Comme son interlocuteur reste muet, Phil Bernardo lui enfonce son arme sur le cou. Encore une fois, il n'a pas le choix. Nancy, pourquoi avez-vous dansé avec Tommy Carley au bal des infirmières? Ben, c'était normal, je suis infirmière, c'était le bal annuel de l'hôpital. Tommy Carley est un médecin de mon service. J'ai dansé avec lui comme avec d'autres. Il ne s'est rien passé entre nous, je vous le jure. Je te le jure à toi aussi, Phil. Ce dernier a un nouveau ricanement. Ne l'écoutez pas, elle ment. Elle l'a embrassé devant moi, devant tous les autres. Après seulement 5 ans de mariage, la garce. Allez, curé, continuez votre confession. Il y a longtemps que je la surveille. J'ai toutes les preuves de sa trahison. Nancy Bernardo prend la parole avec l'énergie du désespoir. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait. C'est lui qui est d'une jalousie maladive. Il m'a espionné dès le lendemain de notre mariage. Il contrôlait les kilomètres de ma voiture. Il se cachait derrière les arbres de l'hôpital pour me surveiller. Il a même engagé un détective privé. Mais il n'a rien trouvé. Et le détective non plus. Il est venu me le dire. Phil Bernardo l'interrompt. Bon, ça suffit. La cause est entendue. Curé, prononcez le verdict. Et comme Greg Simmons reste sans réaction, il lui enfonce le revolver dans le cou. Vous allez dire, Nancy, je vous condamne à mort. Sinon, je vous troue la gorge et après, je la bats comme la chienne qu'elle est. Mais l'animateur de SOS Remords secoue la tête négativement. Non, Bernardo, je ne le ferai pas. Jusqu'ici, il ne s'est rien passé d'irréparable. Nous allons appeler la police et tout rentrera dans l'ordre. Comme vous voulez. Dans ce cas, je vous tue d'abord et elle après. Il y a un silence. Et puis la voix de Greg Simmons. Et si je fais comme vous dites, si je la condamne, qu'est-ce qui se passera? Je vous donnerai un autre revolver et vous exécuterez la sentence. Mais pas de blague, hein? Je vous ai à l'œil. L'ancien pasteur réfléchit à toute allure. Accepter est évidemment sa seule chance. Puisque l'homme a l'inconscience de vouloir lui donner une arme, il faut en profiter. Seulement, il n'a jamais tiré un seul coup de feu. Et il a toujours professé dans ses sermons que la vie était sacrée, toutes les vies, même la pire en apparence. Malgré tout, il n'a pas le choix. Alors il s'entend prononcer « Nancy, je vous condamne à mort. » Un large sourire apparaît sur le visage de Phil Bernardo. « À la bonne heure! Je savais que vous seriez raisonnable. Tu vois, Nancy, même le curé juge que tu es coupable. » Alors tu vas mourir. Tout en parlant, il est allé chercher dans un tiroir un autre revolver, plus petit que le sien, un joli objet au reflet argenté qui ressemble un peu à un jouet. Mais ce n'est pas un jouet. Il retire le cran de sûreté avant de le remettre à son visiteur. En même temps, il lui pose le canon de sa propre arme sur la tempe. Viser à la tête, c'est mieux. La suite se passe en un éclair. Greg Simmons, comme dans les films d'action, s'est jeté à terre et, levant son revolver, il a tiré au jugé en direction de Bernardo. La balle a fait mouche. Le forcené s'est écroulé, touché en plein cœur. L'animateur reste un moment hébété, puis, tandis que s'élèvent les sanglots étouffés de Nancy, il va décrocher le téléphone pour appeler la police. La police, après une rapide enquête, a conclu à la légitime défense. Le témoignage de Nancy Bernardo était formel. Non seulement Greg Simmons avait agi en état de légitime défense, mais il lui avait sauvé la vie. S'il n'avait pas tué son mari, ce dernier l'aurait tué sans le moindre doute. Et les journaux, qui ont abondamment commenté cette incroyable affaire, ont tous été du même avis. Greg Simmons n'était pas un meurtrier, c'était un héros. Il n'y a eu que l'intéressé pour ne pas partager ce point de vue. Il avait sauvé une vie, mais il en avait supprimé une autre. Et cela, il n'arrivait pas à le supporter. La vie est sacrée. Il l'avait toujours dit, il l'avait toujours pensé. Et il ne se pardonnait pas son geste. L'ancien pasteur a fermé sa ligne téléphonique et peu après le drame, s'en est allé, sans dire à personne où il allait, seul, avec son remords.
Jusqu'à 13h30, Pierre Bellemare est sur RTL.
Pour la troisième incroyable histoire, vous allez entrer dans le monde étonnant et néanmoins dangereux de la naïveté extrême. Nicolas et Jean-Pierre, tous deux originaires de Bruxelles, sont amis d'enfance. Ils se sont connus sur les bancs de l'école, où ils se sont livrés pendant des années à une concurrence féroce pour la dernière place, étant aussi peu doués l'un que l'autre pour les études. Ensuite, ils ont fait leur service militaire, toujours ensemble, après quoi ils se sont perdus de vue. Désormais séparés, ils ont pourtant vécu le même genre d'existence. Ils n'avaient pas plus de goût pour le travail que pour l'étude, et ils ont choisi tous les deux une voie malhonnête, avec d'ailleurs un succès pour le moins mitigé. Leur trafic minable et leur vol improvisé ne leur ont pas rapporté grand-chose, à part quelques années de prison. C'est au sortir de leur dernière peine que Nicolas et Jean-Pierre se rencontrent par hasard dans une rue de Bruxelles. Ils vont fêter leur retrouvaille au café, ils découvrent avec émerveillement la similitude de leur parcours, et à la cinquième ou à la sixième bière, ils décident de faire un coup ensemble, mais pas quelque chose de médiocre, hein, comme jusqu'à maintenant. Un vrai coup, un grand coup, digne des truands les plus chevronnés. C'est Nicolas qui trouve l'idée. Un enlèvement. On va faire un enlèvement. Nicolas et Jean-Pierre se mettent donc à préparer leur enlèvement. Un enlèvement belge, il faut le préciser. Pour la personne à enlever, il n'y a pas de problème. Ce doit être un riche. Et le mieux est d'aller voir sur place. Alors les deux amis d'enfance se rendent donc à Schaerbeek, la banlieue huppée de Bruxelles, l'équivalent de Neuilly pour Paris. Là, ils examinent attentivement les superbes demeures et ils finissent par porter leur choix sur une villa entourée d'un jardin aux roses magnifiques. Renseignement pris, elle appartient aux Van de Broek, des magnats du textile. Maintenant, quel membre de la famille enlevé ? Ils achètent le bottin mondain et belge et constatent avec déception que le couple Van de Broek n'a pas d'enfant. Jean-Pierre est découragé. Ah, il faut prendre quelqu'un d'autre. C'est dommage parce que, avec une maison pareille, ils avaient de quoi payer, hein. Mais Nicolas n'est pas de cet avis. On n'a qu'à enlever la femme. Mais quand on la relâchera, elle pourra donner un signalement. Car il faut préciser que ni l'un ni l'autre n'ont l'intention de tuer leur victime. Ce ne sont pas des méchants, encore moins des assassins. Nicolas balaie l'objection de son complice. Qu'est-ce que ça peut faire? Avec l'argent qu'on va toucher, on sera loin, en Amérique du Sud, par exemple. Hein? Qu'est-ce que tu dis de l'Amérique du Sud? L'argument emporte l'adhésion de Jean-Pierre. Tout comme ils se mettent facilement d'accord pour la rançon, ce sera 1 million d'euros. Demander plus, ce serait courir le risque de ne pas être payé, et demander moins, ça ne ferait pas sérieux. Maintenant, il reste le plus difficile, la préparation du rapt lui-même. Alors ils reviennent sur place, il ne s'agit pas d'improviser. Il faut agir, comme ils ont vu faire dans les films, hein. Repérer soigneusement les lieux, noter les habitudes et l'emploi du temps de la famille, et déterminer les circonstances les plus favorables à l'enlèvement. A priori, cela ne se présente pas bien. Ah, il fallait s'en douter d'ailleurs. Des gens aussi riches que les Van de Broek prennent leurs précautions. La villa est clôturée avec de hauts murs, une lourde grille. À l'intérieur, on peut distinguer la silhouette de deux molosses qui n'ont certainement rien de pacifique. Mais au bout de quelques jours, les deux complices constatent que tous les matins, le boulanger vient livrer le pain dans sa camionnette. Il arrive à 7h30, va dire « C'est le boulanger !» dans l'interphone, et la grille s'ouvre comme par enchantement. D'autre part, à cette heure, Madame Van de Broek est toujours en train de tailler ses rosiers dans le parc. C'est dit, c'est de cette manière qu'on procédera. Nicolas et Jean-Pierre volent une camionnette semblable à celle du boulanger et la repeignent dans la même couleur. Ensuite, ils contemplent leur œuvre avec satisfaction. L'illusion est parfaite. Ils peuvent passer à l'action. Ils ont décidé d'arriver un peu avant le commerçant. Il se présente à 7h20 devant la grille. Nicolas est au volant. Jean-Pierre va sonner à l'interphone. Il entend une voix féminine et lance « C'est le boulanger !» Son cœur bat très fort. C'est l'instant crucial. Est-ce qu'on va remarquer la différence de voix? Est-ce que le décalage de 10 minutes va attirer les soupçons? Mais non. La grille s'ouvre docilement. Madame Van de Broek est justement tout près, en train de s'occuper des rosiers. Il s'arrête, lui saute dessus, et l'instant d'après, elle se retrouve ficelée, bâillonnée dans la camionnette, qui fait demi-tour et démarre en trombe. La grille n'a même pas eu le temps de se refermer. L'acte suivant a lieu un quart d'heure plus tard. Il s'agit d'appeler depuis une cabine pour annoncer l'enlèvement et réclamer la rançon. Au bout du fil, la même voix féminine qui avait parlé dans l'interphone. Nicolas, qui est chargé du coup de téléphone, prend une voix aussi impressionnante que possible. « Allô ? Ici les ravisseurs. » « Si vous voulez revoir Madame Van de Broek, c'est 1 million d'euros !» Mais sa correspondante n'a pas du tout l'air impressionnée. Elle semble plutôt énervée. « Madame Van de Broek, c'est moi! C'est vous qui avez agressé la bonne ?» Eh oui, Nicolas et Jean-Pierre avaient soigneusement repéré les allées et venues autour de la villa, mais ils avaient oublié de chercher à savoir à quoi ressemblait la femme du milliardaire. Nicolas ne veut tout de même pas s'avouer vaincu. « Et pour la bonne, vous nous donnez combien, Madame Van de Broek, hein ? 100 000, 50 000 ? Allô ? Allô ? Allô ?» La femme a raccroché. Ils n'ont plus qu'à relâcher leur prisonnière, qui s'empressera de faire d'eux une description précise à la police, et qui, en outre, les a entendus s'appeler par leur prénom dans la voiture, Nicolas et Jean-Pierre. Et Nicolas et Jean-Pierre seront arrêtés 48 heures plus tard.
Les incroyables histoires de Pierre Bellemare, réalisées par Gaïa Becco, rédaction
Grégory Franck,
Jean-François Namias et Jérôme Ecker, documentation Francine Vincent.
Merci Pierre et à dimanche prochain.